Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. J'avais recopié les versets, mais je pense que c'est bien quand même que je prenne ma Bible, que je le lise avec vous. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je vous invite à prendre dans Romains chapitre 12 maintenant et verset 15. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et une dernière lecture dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, 3. Il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle puisse ce soir encore nous éclairer sur ta volonté, sur ce que tu attends de nous, sur les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, des bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions et que le monde voit que tu l'aimes et que tu veux le sauver. Nous-mêmes, Seigneur, pour que nous puissions compter sur toi à chaque instant et que nous puissions bénéficier de toutes tes richesses et être préparés pour l'éternité dans le ciel. Nous te disons merci pour ces moments, nous comptons sur toi, vraiment pour que ton esprit nous visite. Travaille nos cœurs et au-delà de mes mots, au-delà de mes pensées, au-delà de mes forces, qui sont si faibles et si fragiles, je compte sur toi, Seigneur, pour que tu ouvres notre esprit, notre cœur, et que tu puisses parler à chacun d'entre nous. Merci, Père, de faire cela. Je prie, Seigneur, de la part de Jésus-Christ qui m'a demandé de le faire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris un petit peu à trouver le point commun de ces trois textes? Oui? L'humilité, exactement. Le thème que j'aimerais aborder ce soir, c'est l'humilité. Aujourd'hui, j'ai parlé à des personnes et je remarquais que j'avais vraiment besoin de grandir dans l'humilité. Et je me suis penché sur ce que disait la parole sur l'humilité. J'ai vraiment voulu méditer, j'ai pas fini, vous imaginez. Mais j'ai commencé à faire un petit peu ce travail et je pense que c'est bien de le partager ensemble ce soir. Je commencerai aussi par une petite anecdote. Un jour, il y a Léonard de Vinci qui montra à l'un de ses amis la magnifique Sainte-Seine qu'il venait d'achever. Vous savez, ce beau tableau. Dès le premier coup d'œil jeté sur la toile, l'ami s'écria « Oh, quelle magnifique coupe vous avez mis dans les mains du Christ! On la croirait réelle! À elle seule, elle est déjà un chef-d'œuvre !» En entendant ces mots, le peintre saisit ses pinceaux et se mit immédiatement en devoir d'amortir l'éclat de la coupe et d'en faire une coupe toute simple et toute ordinaire. L'ami stupéfait le regardait. Vinci se retourna vers lui et lui demanda « Dis-moi maintenant, elle n'attire plus les regards, on ne fera plus attention à elle, n'est-ce pas ?» Et comme l'autre ne paraissait pas comprendre, Vinci lui dit « Je veux que le Christ seul puisse fixer l'attention de tous ceux qui verront ce tableau. » Et celui qui rapporte cette histoire dit « Heureux ceux qui ont la même fermeté que Vinci et qui savent ôter de leur vie et de leur témoignage tout ce qui est de nature à prendre la place de Jésus. » Est-ce qu'on peut dire « Amen » ? On est d'accord. On est d'accord. Quand on arrive à ôter de notre vie, ôter de notre cœur, ôter de notre témoignage, tout ce qui attirerait le regard sur nous. Léonard de Vinci, en faisant ce tableau, a remarqué que le plus beau dans ce tableau, ça paraissait ne pas être Jésus, et qu'il y avait quelque chose qui risquait de passer avant. Et il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Il a fait en sorte que celui sur qui on tourne les regards, ce soit le Christ, le Seigneur Jésus. Et que ce qu'il en soit ainsi dans nos vies, l'humilité. La définition de l'humilité dans les dictionnaires qu'on peut prendre, C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. On appelle ça la modestie. Littéralement, c'est le caractère de ce qui est humble, modeste. Et humble, c'est celui qui s'abaisse volonté, par modestie ou par déférence envers quelqu'un. Quelqu'un qui est effacé, qui marque de l'humilité, de la déférence, littéralement qui est sans éclat, sans prétention. Ça me fait penser à Jésus qui est venu comme une faible plante. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui ne revendique pas ses droits. Il a des droits, mais il ne va pas les revendiquer. Et quand on acquiert des droits, on a tendance à se rebeller quand on ne les a pas. Sachons, quelquefois, dans certaines circonstances, gagner en humilité. Dans la parole de Dieu, il y a un mot qui est utilisé, je vous passe la prononciation. La définition de ce mot, ça veut dire avoir une opinion humble de soi-même, un sens profond de sa petitesse. Modestie, humilité, être humble d'esprit. Ce mot est divisé en deux. Le premier, c'est tapenos, et le deuxième, phren. Le premier qui dit qu'il ne s'élève pas loin du sol, humble. Qu'il ne s'élève pas loin du sol. Et la deuxième partie du mot qui veut dire la faculté de perception et de jugement. Quelqu'un d'humble, quelqu'un plein d'humilité, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de connaissances, quelqu'un qui ne sait pas juger, alors parce qu'il ne sait pas faire, il se met en retrait. C'est quelqu'un qui a du discernement, quelqu'un qui a de la perception. Quelqu'un qui sait juger spirituellement des choses, mais qui préfère, par souci d'honneur envers son Dieu, se mettre en retrait, s'effacer, du moment qu'il n'y a pas danger envers la personne. Qui sait regarder les autres comme étant au-dessus de soi-même. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui pourrait parler, qui pourrait rabaisser l'autre, qui pourrait dire « moi je sais mieux », mais qui préfère se mettre en retrait. Et patienter jusqu'au moment opportun où la personne sera apte à entendre ce que j'ai à lui dire, le conseil, l'humilité. Quelqu'un dira, Monsieur Murray, alors pas le joueur de tennis, mais Monsieur Murray qui était un pasteur, il a écrit ceci, l'humilité se justifie à un triple point de vue. Et on va voir l'humilité sous trois aspects. Pourquoi dois-je être humble en tant qu'enfant de Dieu? La première raison, c'est parce que nous ne sommes que des créatures. La parole de Dieu commence comme ça, elle débute comme ça, elle dit « Au commencement, Dieu créa. » Et ensuite, là, la liste, il créa la nature, il créa la terre, il créa d'abord le ciel, etc., la lumière, les ténèbres, il créa tout ça, il appelle le jour nuit, la lumière jour, et les ténèbres nuit, etc. Il met en place les choses, il crée les animaux, il fait tout ça, il prépare un beau jardin pour l'homme, et ensuite il crée l'homme et il le met dedans. Dieu a tout créé, et nous ne sommes que des créatures. Et on est bien tenté des fois de s'enorgueillir de ce qu'on peut faire, nous aussi. Je pensais à ces efforts qui ont été racontés dans la Bible, les hommes qui ont voulu atteindre le ciel, qui ont fait une grande tour qui s'appelle la tour de Babel. Vous vous souvenez? Qui c'est qui a donné l'ordre de construire la tour de Babel? C'est pas écrit dans la Bible, mais l'archéologie nous l'enseigne. C'est un homme, il a dit qu'il a été le premier grand chasseur sur la terre. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Oui, je l'ai entendu. Nimrod. Nimrod est le premier qui a eu des hommes sous son autorité, qui a régné, qui a été mis en autorité sur d'autres hommes. Ça a été le premier roi, c'est ça que veut dire ce texte dans la parole de Dieu. Et il a demandé à ce qu'on construise une grande tour. Et lui, il n'était pas du tout humble. Une grande tour parce qu'il voulait atteindre le ciel, il voulait rassembler tout le monde sous son autorité. Il a fait construire la tour de Babel et dans cette tour, il a fait faire plein de fenêtres tout autour. Il y avait plein de fenêtres. Dans ce qu'on retrouve des récits babyloniens, dans l'archéologie, on trouve cette histoire, des récits où il montre comment elle était. Il y avait plein de fenêtres parce qu'il voulait que tout le monde, la tour était haute pour que tout le monde puisse la voir et il voulait en même temps, de l'intérieur, que des soldats puissent jeter ce que chacun faisait. Il a tellement d'orgueil qu'il voulait que tout le monde puisse voir ce grand édifice et lui voulait pouvoir contrôler tout le monde à partir de sa tour, voir toute la ville qui se bâtit autour. Nimrod, cet homme. La tour de Babel, on veut être haut. Vous vous souvenez, humble, c'est ceux qui ne s'éloignent pas trop du sol. Hein? Petit. Et lui, une grande tour. Et on peut voir sur toute la terre des endroits avec des édifices très très hauts, des constructions très sophistiquées. On parle de l'avion. Et il va où l'avion quand même? On va encore plus haut, la fusée qui va même dans l'espace. La NASA. La fusée, l'homme, il veut aller toujours plus haut, plus haut. Et il remarque qu'il n'y a toujours pas Dieu là-haut. Il est allé sur la Lune, il dit, j'ai pas trouvé Dieu. Eh ben oui, il n'y est pas. Il est sur la Terre. Pourquoi t'es allé si loin? Eh oui, on veut toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Il y a une recherche de ce qui est grand, de ce qui est haut. On l'a lu, laissons-nous attirer par ce qui est... Ne nous laissons pas attirer par ce qui est élevé, mais cherchons ce qui est humble. Cherchons ce qui est humble, ce qui est petit. C'est Dieu qui élève. Et celui qui cherche à s'élever, Dieu l'abaissera. C'est ce que nous dit encore la parole de Dieu. On peut voir beaucoup d'édifices comme la muraille de Chine. Vous saviez que c'est le seul monument au monde qui se voit depuis l'espace. Depuis la Lune, on peut voir à l'œil nu la muraille de Chine. C'est quelque chose quand même. C'est quand même quelque chose. Ils ont quand même fait fort. Sans tout le matériel qu'on a aujourd'hui. L'homme, il cherche à faire des grands édifices. Et on pourrait dire, mais c'est vrai, quand même cet homme, il a une certaine gloire, cet architecte, ces bâtisseurs. On pourrait accorder de la gloire à certaines personnes, élever certaines personnes. Tel pasteur, il a vécu tant de miracles. Il lui arrivait tant de miracles. Et ceci, et cela. Et puis on a tendance à élever, à élever. Ou qu'est-ce qui prêche bien celui-là? Qu'est-ce qui sait bien? Et on a tendance à élever, etc. Et moi, j'aimerais dire qu'on peut voir des beaux édifices, des belles constructions sur la terre, magnifiques. Mais Dieu a fait mieux que chacun. Dans le psaume 139, pardon, verset 14, je vous le lis, il est dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Le psalmiste parlait de son corps. Est-ce que vous savez un petit peu des choses sur le corps humain? Moi, ça m'intéresse. Quand je regarde, je suis époustouflé. Et un jour, quand j'étais à l'école, on m'a appris que les cellules étaient imbriquées les unes avec les autres et qu'à force de se mettre ensemble, elles formaient un tissu. Et chaque organe avait des particuliers, etc. Et les cellules, elles se mettaient comme il fallait pour faire l'organe qu'il faut, etc. Qui sait quel est le plus grand organe du corps? Pardon? La peau. La peau. Qui est là pour protéger de l'extérieur, pour mettre une séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Le plus grand organe, c'est la peau. Et moi, on m'a appris que les cellules, on m'a donné cette image pour bien comprendre. On m'a dit, chaque cellule, c'est comme une brique. Et les unes à côté des autres, ça fait un édifice, ça fait le corps humain. Vous savez combien le corps humain, il a de briques? Des milliards, presque. Plus. Des, c'est combien des? C'est ça. Des centaines de milliards, plus. Environ 100 000 milliards. Ça en fait quand même. Hein? Vous savez combien ça coûte un parpaing? Je suis parti dans ma réflexion. J'ai calculé et tout. Un parpaing, vous savez combien ça coûte? Allez, au magasin à côté de chez moi, 62 centimes. D'accord? J'ai arrondi à 50 centimes. Je ne suis pas très fort en calcul, il m'a fallu arrondir. 50 centimes, le parpaing. Si on regardait 100 000 milliards de parpaings, il faut mettre à l'échelle. Ça voudrait dire qu'on a dépensé 50 000 milliards d'euros pour construire un édifice. Vous savez combien il y a de monnaie sur toute la surface de la Terre équivalent en euros? Toute la monnaie de la Terre, je ne parle pas des richesses, là ben, on ne peut pas compter, mais là, rien que la monnaie, déjà la monnaie, il n'y a que 4 000 milliards. En 2009, il n'y avait que 4 000 milliards d'euros sur toute la Terre si on prenait toutes les monnaies du monde entier. Et là, il faudrait 50 000 milliards pour faire un édifice comparable à l'être humain si on le faisait en parpaing, une cellule, un parpaing. Ça ferait un édifice. Et vous savez quoi? C'est que chaque jour dans notre corps, il y a 200 milliards de cellules qui meurent et qui sont renouvelées. Ça veut dire que pour entretenir ce bâtiment, chaque jour, il faudrait 100 milliards d'euros pour l'entretenir. Ça serait un bâtiment cher. C'est immense. C'est pas possible. Humainement parlant, personne n'est arrivé à ça. Chaque brique, touc, 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 et ça fait le corps humain. Et tout ça, ça se passe sous nos yeux, en pleine humilité, discrètement, sans qu'on fasse d'efforts, sans qu'on le calcule, sans qu'on cherche à savoir, sans qu'on maîtrise tout ça. Dieu, il fait ça de manière invisible, en toute humilité. Et il donne à chacun, celui qui croit comme celui qui ne croit pas, il donne à chacun un corps humain, Quelquefois, le péché a détérioré tout ça et le corps humain devient malade, tombe, etc. Depuis que le péché est rentré dans le monde, il y a la maladie qui est rentrée dans le monde. Le corps est abîmé, mais Dieu, à la base, a donné à chacun un corps humain en pleine santé, qui se renouvelait de jour en jour, qui n'arrêtait pas de se renouveler, donc la vieillesse n'arrivait pas, etc. Dieu a fait ça. Il est plus grand que tous les bâtisseurs du monde entier. Il est le meilleur architecte qu'il nous faut et que le monde a jamais connu. Et si on comparait avec ce qu'on a fait, oui, Dieu est glorieux et nous on est tout petits. Dieu est le créateur et nous sommes la créature et on ne pourra jamais arriver au niveau du créateur. Pourquoi devons-nous chercher à avoir de l'humilité? Parce que nous ne sommes que des créatures. Nous sommes tout petits face à Dieu. Dans Job, chapitre 1, verset 21, je le lis encore. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Qu'importe ce qu'on amasse comme richesse sur la terre, qu'importe ce qu'on fait sur la terre, les édifices qu'on bâtit, les projets qu'on mène à bien, il n'en reste pas moins valable le fait qu'on n'est que des créatures et qu'on doit respect au Créateur. La Bible ne prouve pas ça. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. La Bible ne cherche pas à expliquer que Dieu existe. Il existe et il est ton Créateur. Et il nous demande à chacun d'avoir de l'humilité devant lui. Deuxième raison pour laquelle on peut s'humilier, c'est parce que tous nous sommes pécheurs. Tous nous sommes pécheurs. Dans notre vie, on pourrait voir encore une fois des personnes vraiment marquantes, avec un témoignage marquant, des personnes qui se donnent pour les autres, qui font toutes sortes de bonnes œuvres humanitaires, qui font toutes sortes de projets, qui donnent leur vie entière pour d'autres. Qui connaît Mère Teresa? De nom, je parle de nom. De nom. Moi, j'ai eu la chance, une fois, entre guillemets, de la voir. Mère Teresa est une personne de qui on va dire qu'elle a donné sa vie. Elle allait dans toutes sortes d'endroits pour faire du bien, etc. Elle a vraiment fait des choses incroyables. Elle l'a fait, en plus, elle le dit elle-même, pour l'amour de Dieu. Elle avait une doctrine, etc. Moi, je ne regarde pas à ça. Je regarde vraiment à ce qu'elle a fait. Et elle a fait des choses que peu d'entre nous ont fait. Elle s'investit dans plus de 610 missions. Elle a donné de son temps. Elle s'est donnée tout entière. Elle s'est consacrée. Elle a défendu des causes humanitaires comme peut-être peu de personnes l'ont fait sur notre planète. Mais elle-même a dit ceci un jour. Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous nous vidons et Dieu nous remplit de lui-même. Je trouve quand même que ça vaut la peine. Tant que nous n'abandonnons pas notre péché, elle-même l'a dit, elle qui a fait du bien, elle ne s'appuyait pas sur son mérite. Elle pouvait dire, elle aussi, elle le reconnaissait comme la Bible le déclare, on va le voir. Que tous nous sommes pécheurs et que pour être remplis de l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir faire le bien même qu'elle a fait, il fallait d'abord qu'elle demande pardon pour son propre péché, qu'elle se vide d'elle-même, qu'elle se vide de ses mérites, qu'elle se vide de ses, peut-être de ses médailles qu'on pourrait présenter à Dieu, qu'elle se vide de tout cela pour dire « Je me vide de moi-même, je vide de mon péché, je confesse mon péché, pardon Seigneur pour mon péché, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton pardon, de conviction que je suis pardonné parce que Jésus est mort sur le bois de la croix pour moi et tu l'as ressuscité pour qu'il puisse me pardonner aujourd'hui. » Même elle, qui a fait toutes ces choses bien, reconnaît que la Bible dit vrai. Et on pourrait regarder aux hommes chacun et se comparer, dire « Tiens, tel, il a fait des efforts. Tiens, une telle, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle doit bien mériter le ciel. » Non, ce n'est pas vrai. Personne ne mérite le ciel. C'est pourquoi nous devons tous nous humilier devant le Seigneur. Et reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon pour pouvoir obtenir ce pardon et la vie éternelle. Dans Romains chapitre 3, verset 10, on le lit ensemble. Romains 3, 10. Romains chapitre 3, verset 10, il est dit ceci. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Amen. En résumé, on est tous pareils devant le Seigneur. Personne ne mérite le ciel. Et il nous faut avoir de l'humilité, reconnaître notre état de pécheur, reconnaître notre imperfection, reconnaître que dans le ciel, il faut être parfait pour y rentrer, ou alors lavé de nos imperfections. Et que le seul moyen d'être lavé, d'être purifié de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. S'humilier parce que nous sommes pécheurs. Et puis la troisième raison pour laquelle on a besoin de s'humilier, même nous qui avons été pardonnés de nos péchés, lavés de nos péchés, etc. La troisième et dernière raison, c'est parce que nous sommes appelés à être saints. C'est ce que j'ai partagé la dernière fois. Il y a un appel de la part de Dieu, un appel qui transparaît de toute la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être saints. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Allez, on le lit aussi. 1 Pierre, 1, 14. Le Seigneur s'adresse à ses enfants par la bouche de l'apôtre Pierre et il dit, 1 Pierre, 1, 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » On est tous appelés à la sainteté. Je vous pose une question à chacun d'entre nous ce soir. Qui est arrivé à la sainteté que Dieu demande de nous? Qui est arrivé à la perfection? Qui a réussi à faire mourir la chair, tous ses désirs, comme l'apôtre le dit? Qui peut dire, moi je suis parfait? Plus rien à me reprocher, plus besoin de demander pardon à Dieu. De toute façon, je ne pêche plus. On est tous d'accord qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures, ou de minutes, ou de secondes, pour devant Dieu réaliser qu'on a tous besoin encore de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Un jour, un homme, je crois que c'est devant Spurgeon, ils étaient à table, un homme a dit à Spurgeon ou à celui, à quelqu'un d'autre, il a dit, voilà, moi, je peux vous dire que depuis que Jésus m'a sauvé, ça y est, je suis sans péché. J'ai crucifié la chair, c'est dit dans la parole, c'est acquis, je suis sans péché. Ah bon. Puis il discutait, il essayait de raisonner un peu, il dit, tu es sûr, tu es sans péché? Oui. Moi je vous dis, ça y est, le Seigneur, il m'a acquis la grâce, il m'a acquis la sainteté, il m'a donné sa sainteté, je suis une créature nouvelle, il est dit, je suis saint. Ah, super, ok. Il dit, mais c'est vraiment bien et tout. Puis ils ont recommencé à manger. Puis d'un coup, le frère, il a pris son verre d'eau, il l'a jeté au visage. Il a pris l'eau au visage, comme ça. Et il s'est levé. Mais qu'est-ce que tu fais? Et il s'est énervé, comme ça. Il a eu même des paroles. Mais tu es fou, etc. Et le frère, il sourit. Il dit, ah la chair, elle est crucifiée. Hein. Elle est crucifiée, la chair. Ah ouais, moi je suis ça. Moi je m'énerve plus. Moi, la chair, elle est crucifiée. Ouais, bien sûr. Il en fait peu. Peu. Comme on dit, fait fuir la vieille nature au galop. Non, fait fuir la vieille nature et elle revient au galop. Et ouais, revient vite au galop. Bref, vous connaissez l'expression mieux que moi. Il n'est pas facile de lutter contre nos propres désirs, contre notre passion, contre les choses qui sont encore là. La chair est encore là. Elle est encore attisée, sollicitée par toutes sortes de choses. On est dans le monde. Et encore heureux, Jésus, il a dit quoi? Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Et on a besoin de se préserver, on a besoin de veiller, on a besoin de faire attention, on a besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à tenir, à résister aux tentations. On n'est pas parfait encore. Pourquoi il nous faut de l'humilité? Parce que personne n'est encore arrivé à la perfection. Et c'est facile de remarquer les erreurs chez les autres. C'est facile de regarder les défauts chez les autres. C'est facile de reprendre les autres. Et j'ai bien aimé ce qu'il a son dimanche. Quand je pointe le doigt vers vous, il y en a trois vers moi. Et il ne faut pas l'oublier. Pourquoi il nous faut de l'humilité? Parce qu'on n'est pas parfait. Et il y en a, moi j'ai déjà discuté avec quelqu'un dans une assemblée, et il m'a dit, si, je suis parfait. Je dis, non, on n'est pas encore parfait. Si, c'est écrit qu'on est parfait. J'ai dit, oui, par la foi, en devenir. Je dis, mais moi, je peux vous dire que je ne suis pas parfait. Peut-être que vous l'êtes, tant mieux, mais moi, je ne le suis pas. Il y a tout un débat. Moi, je vous dis, personne n'est parfait. Et quand on reprend quelqu'un, c'est vrai, la parole nous dit de le faire avec douceur, avec humilité. Quand on va vers son prochain pour lui faire remarquer une paille, veillons à ce qu'il n'y ait pas de poutre. C'est biblique tout ça. On n'est pas parfait. Rappelons-nous tout ça. Par contre, l'humilité, ce n'est pas fermer les yeux sur tout. Je crois que l'humilité se rapproche de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on va le prévenir, l'avertir. Le propre de l'amour, c'est d'avertir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux des hôpitaux en bas d'une falaise ou des barrières en haut? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'amour? C'est de faire plein d'hôpitaux en bas, là, dans la vallée? Ou bien de mettre des barrières en haut? C'est de mettre des barrières. Parce qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas le mal. C'est bien de dire, oh, de toute façon, je le récupérerai quand il n'ira pas bien. Vaudrait mieux d'abord mettre des barrières pour qu'il aille toujours mieux, pour qu'il ne tombe pas là-dedans. Le propre de l'amour, c'est d'avertir. Le propre de l'amour, c'est de sécuriser, c'est d'entourer. Et quelquefois, quand on voit quelqu'un en danger, notre devoir, c'est de lui parler, de lui faire remarquer quelque chose. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prie. Prie. Et il est vrai qu'il nous faut de l'humilité parce que personne n'est parfait. Mais par contre, Dieu nous utilise à chacun pour veiller sur notre frère et sur notre sœur. On n'est pas appelé à surveiller, je le rappelle. On n'a pas notre rôle, Dieu ne nous demande pas de nous surveiller les uns les autres, mais de veiller les uns sur les autres. Veiller, prendre soin, avoir de l'humilité même quand on parle. Des pièges à éviter. Des pièges à éviter. Est-ce que l'humilité, c'est se condamner soi-même, se mortifier, faire pénitence? Est-ce que c'est ça la vraie humilité? Parce que des gens disent, moi je suis humble, je fais faire le chemin de croix, d'autres vont se faire crucifier vraiment, par preuve d'humilité devant Dieu. Certains vont se flageller, faire pénitence, se punir eux-mêmes, par preuve, soi-disant, d'humilité. Est-ce que c'est ça? J'ai relevé que la parole nous demandait de se juger soi-même. C'est dans le contexte de la Sainte-Seine, 1 Corinthiens 11, 31, je le lis. « Si nous, nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Quand Dieu nous juge, c'est-à-dire qu'il met en évidence ce qui ne lui convient pas, ce n'est pas pour nous condamner, jamais. Il ôte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas à se punir, à se flageller, à faire pénitence. C'est fini tout ça, Jésus a fait tout cela pour nous. Il a subi notre condamnation. Nous, on a juste à se juger, c'est-à-dire dire, ça c'est mauvais, je le rectifie, je demande pardon. C'est ça, juger ça ne veut pas dire condamner, juger ça veut dire dire si c'est bon ou pas, apporter un jugement, peser le pour, le contre et choisir. C'est ça juger. Et si on est appelé à se juger soi-même, on n'est pas appelé à se condamner soi-même. La pénitence, c'est dire que l'action de Jésus-Christ à la croix, l'œuvre de Jésus-Christ ne suffit plus et qu'il faut que je rajoute des flagellations, qu'il faut que je rajoute pénitence, qu'il faut que j'ajoute condamnation. La condamnation que Jésus a subie, elle est suffisante. Pour nous sauver. Son sang est suffisant pour nous laver de tout péché. Le mépris du corps. Est-ce que parce que je vais mépriser mon corps, c'est une preuve d'humilité? Je vais m'habiller en haillons. Ça, c'est de l'humilité. Je ne vais pas prendre soin de mon corps. Je vais jeûner. Preuve d'humilité. Est-ce que ne pas prendre soin de son corps, c'est de l'humilité? C'est encore pas là ce que Dieu demande dans la parole de Dieu. Si j'utilise le jeûne pour m'humilier devant Dieu, passer du temps devant lui, ce n'est pas le jeûne en soi qui est de l'humiliation, c'est l'attitude du cœur qui est accompagnée de différentes choses. Dans la parole, Paul met en garde les Colossiens de ceux qui, sous prétexte, sous l'apparence d'humilité, eh bien, font passer un enseignement pernicieux, c'est-à-dire qu'ils font perdre la foi, qu'ils font perdre le salut. Dans Colossiens chapitre 2, je vous le lis, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 23, « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Ces personnes disaient de ne pas se marier. Ces personnes disaient toutes sortes de choses. Et Paul met en évidence, il dit « Arrêtez, ça paraît sain, ça paraît de l'humilité, mais en vrai, c'est de l'orgueil. » Croire qu'on va mériter par le mépris de la chair, ça s'appelle de l'orgueil, c'est l'inverse de l'humilité. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Et puis, se comparer à d'autres. Est-ce que s'humilier, c'est se comparer à d'autres? Il est quand même dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais est-ce que l'humilité, c'est regarder les autres, puis vraiment dire, oh moi je suis qu'un bon à rien, oh si je pouvais être comme elle, comme lui. Est-ce que c'est ça l'humilité? Ça paraît sain, oh c'est vrai, il se rabaisse devant le frère, devant la sœur. Mais ce n'est pas l'humilité que Dieu demande, ça c'est encore un piège. Toute comparaison biblique doit aboutir, si elle est approuvée de Dieu, à une joie. On a le droit de se comparer aux autres. Ah oh, Jérémy, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien oui, on a le droit de dire, mais c'est vrai, tiens. Cette personne, il lui arrivait ça de bon, il lui arrivait ça, moi ça ne m'est pas arrivé, mais vraiment merci Seigneur, je suis heureux pour elle et tout. Si c'est de Dieu une comparaison, elle va apporter la joie dans notre cœur. Mais si quand on se compare, il y a une tristesse qui est là, ça s'appelle encore là de l'orgueil, caché, vicieux. Mais en vrai, Dieu nous appelle à être humbles. Et la flatterie, est-ce que flatter les autres c'est s'humilier? Non plus. Dans Proverbes, au chapitre 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Quelquefois, on veut bien faire en flattant, en disant du bien, en disant ouais, « c'était génial cette démonstration que tu nous as fait, etc. C'était tellement bien. » On tend un filet. On tend un piège sous les pas de quelqu'un parce qu'il risque de s'enorgueillir. La flatterie, c'est pas de l'humilité et en plus, ça peut faire tomber l'autre. Tant de l'orgueil. Faisons attention à toutes ces choses. Je conclue, c'est pas très compliqué. L'humilité, ce que je voudrais qu'on réalise aussi, c'est que c'est un privilège que Dieu nous donne. Ça paraît avilissant, ça paraît nous détruire, ça paraît nous mettre plus bas, ça paraît nous desservir. Mais en vérité, l'humilité, c'est une grâce de Dieu et un privilège de la part de Dieu. Quand on regarde au monde, le monde ne peut pas se permettre d'être humble. Il faut manger l'autre pour ne pas être mangé soi-même. En commerce, on sait ça très très bien. L'école de commerce nous enseigne qu'il faut manger les autres pour ne pas être mangé soi-même. Il faut réinvestir pour racheter les autres boîtes, pour racheter, pour grossir, afin de ne pas être mangé à son tour. Dans le monde, dans les quartiers, quand je traversais les HLM où j'étais, je marchais et on m'avait appris, d'autres collègues, d'autres copains m'avaient dit, Jérémy, quand tu passes, tu traces, tu n'apportes pas le regard, tu montres pas que t'es faible, tu montres pas que t'as peur, tu passes, tu traverses. Quand tu traverses tel quartier, tu traces et puis comme si t'étais un bœuf, tu pousses. Quand tu passes, tu tapes de l'épaule et tout. Mais c'est vrai. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Parce que je me faisais tabasser par d'autres. Et on m'avait dit, Jérémy, tu veux t'en sortir? Ben, regarde, il faut que tu t'affirmes. Faut pas que tu montres que t'as peur. Vas-y, habille-toi comme eux, tu vas voir. Fais comme ça, ta 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 ta. Le monde ne peut pas se permettre d'être humble. Le monde ne peut pas se permettre de s'humilier, de regarder l'autre comme étant au-dessus de soi. Parce qu'il faut survivre dans notre monde. Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Il y en a un, le diable ne nous fait pas de cadeaux. Et si on n'a pas Jésus qui est supérieur au diable, on ne peut pas se permettre d'être humble. On ne peut pas se permettre de s'humilier. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Quand on a approuvé du Père, on peut se permettre d'être humble. Jésus disait, je l'ai lu, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Jésus a marché dans l'humilité. Jésus était là, il a fait du bien, il est resté et Dieu l'a gardé de tout mal jusqu'à la croix. Dieu l'a secouru dans toutes circonstances difficiles. Combien de fois on a voulu tuer Jésus? Combien de fois le monde a voulu sauter sur Jésus pour le manger tout cru? Je donne cette image. Combien de fois le diable a réussi à mobiliser les troupes pour détruire Jésus? Combien de fois, même dans le jardin de Gethsémané, il a mobilisé tous les démons pour pouvoir le dissuader, le faire mourir d'angoisse d'un arrêt cardiaque. Et Jésus a supplié, non, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et les anges lui sont venus en aide, nous dit Hébreux. Il a pu tenir bon, il a pu y aller, tout ça par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de son Père. Le secret, c'est la dépendance de Dieu. Et nous avons ce privilège, cette grâce, de pouvoir marcher dans la vie, marcher d'une manière digne, marcher d'une manière humble, digne de notre Seigneur Jésus, à son exemple. Peu de personnes peuvent marcher d'une manière humble et garder la tête haute, si ce n'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ces enfants, parce qu'ils savent que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, que toutes choses concourront à leur bien. Dieu fera concourir toutes choses à leur bien. Ils ont la foi, ils ont l'assurance, ils ont la confiance dans leur berger, ils ont la confiance dans leur père. Et eux, ils peuvent se permettre d'aller vers le prochain et dire, tu sais, tu as de la valeur, autant que moi. Je ne suis pas plus que toi. Tous les deux, aux yeux de Dieu, on a autant que moi. Et je ne cherche pas que mes intérêts, mais je cherche aussi, avant toute chose, les intérêts de mon prochain. Je n'ai pas besoin d'être au-dessus de toi. Je veux que tu comprennes que ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi dans le ciel. Que tu es par la même bénédiction, que tu sois protégé par le même berger, par le même Dieu, que tu connaisses le même Sauveur, le même Seigneur. L'humilité devant Dieu. Je peux me permettre de ne pas faire de fausses déclarations pour les impôts, de faire d'usage de faux, de trafiquer des choses, de faire de magouilles, de faire des choses comme ça, parce que j'ai un Dieu qui pourvoira à mes besoins. Si je le mets en premier, si je l'honore, et par miracle, par des expériences surnaturelles, il veillera sur moi, il approuvera ma vie. Parce que je m'humilie devant lui et je ne cherche pas à le tromper. Je me regarde comme étant au-dessous de lui et je le mets en premier dans ma vie. L'humilité, c'est beau. L'humilité, c'est saint. L'humilité, c'est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est le privilège des enfants de Dieu. Le diable voudrait nous faire passer ça comme quelque chose de rabaissant, d'humiliant, qu'il ne faut surtout pas chercher. Mais Dieu nous dit, c'est ça ma volonté. C'est là que je t'approuverai. C'est là que je te bénirai. C'est là que je te protégerai. C'est là que je serai avec toi. Nous sommes que des créatures. Nous sommes des pécheurs, pardonnés par grâce. On ne le mérite pas. Et nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, ce qui nous est encore difficile. C'est pourquoi Dieu nous dit, marche dans l'humilité. Je vais approuver ta vie. Je vais être avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Vous savez comment c'est dur pour un pasteur de dire ça, de prêcher ça, de parler de l'humilité? Parce que les gens, mais pour qui il se prend, lui? Mais qui il est? Mon père, un jour, a voulu parler de l'humilité. Il avait préparé, prêché sur l'humilité. Et puis il va pour descendre à l'église, on habitait au premier étage. Au moment de descendre, il réalise qu'il n'a pas sa prothèse, un œil, puisqu'il est borgne de l'œil gauche, et il s'est toujours montré devant l'église avant ça, avec sa prothèse. Les gens savaient qu'il lui était arrivé un accident, mais il n'avait jamais vu son œil mutilé. Puis au moment de descendre, il cherche sa prothèse. Partout, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis il cherche droite, gauche et tout, il cherche partout. Il ne trouve pas sa prothèse. Puis au bout d'un moment, il prie, il dit, Seigneur, tu as dit, celui qui cherche, il trouve, celui qui cherche. Alors il prie, vous voyez, mais sa foi en action. Puis une parole qui vient dans son cœur, tu la retrouveras après le message. Ce soir, tu la retrouveras. Bon. J'ai compris. De coup, ça a fait tilt. Je vais prêcher sur l'humilité. Et il descend. Et il prêche. Et les gens le regardent. Parce que ça se voit. Hein. Son œil est tout petit. Il a été opéré, etc. Il a eu la tête d'un clou en acier qui a traversé son œil jusqu'au cristallin. Il a fait perdre la vie. Il a juste perdu la vue. Et aujourd'hui, il met une prothèse. Et les gens le regardent. Tout ça, c'était humiliant pour lui. Rabaissant. Mais il a compris que Dieu voulait le faire passer par là, pour qu'il puisse vraiment parler de ces choses. Et le soir, il rentre, après la journée, il a fait le matin, puis l'après-midi. Et le soir, il rentre, puis il met sa tenue de jogging. Les pasteurs, ils ne sont jamais en jogging. Hein. Ça n'existe pas. Bref, il met sa tenue du soir, pour se mettre à l'aise. Et puis il met sa main dans la poche, bah, la prothèse. et dit, Seigneur, merci. Merci de m'apprendre ces choses. Et je sais que ça me coûte moi aussi de vous parler de ça. Est-ce que Dieu ne va pas me mettre à l'épreuve? Est-ce que je ne vais pas passer par quelque chose pour que Dieu m'apprenne cette chose? C'est bien de le dire aux autres, mais c'est bien de le vivre soi-même. Je me mets devant Dieu, je suis obligé de dire qu'il en soit selon ta volonté. Je veux partager ta parole. Et quand on se soumet à Dieu, quand on s'humilie devant Dieu, on est toujours approuvé, béni de Dieu. Le Seigneur est bon. On n'a pas à avoir peur de s'humilier devant lui. Il veut nous pardonner, il veut nous sauver. Il est notre Créateur, il nous a créés pour des bonnes choses, pour un avenir extraordinaire, le ciel, la félicité éternelle. On pourrait passer une nuit entière à parler de ce qui nous attend. C'est beau ce qui nous attend. Faisons confiance au Seigneur. N'hésitons pas à nous humilier. C'est un privilège qu'il nous fait. Le monde ne réalise pas qu'il a besoin de s'humilier devant Dieu. Et nous, Dieu nous a éclairé le cœur, éclairé les yeux pour qu'on ait l'opportunité de demander pardon pour nos péchés. Dire, Seigneur, je m'humilie devant toi, je me reconnais pécheur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que ton sang lave mes péchés pour que je puisse entrer dans le ciel. Et le Seigneur nous a sauvés. Il nous a donné l'assurance du salut. Et il nous guide encore aujourd'hui. C'est une vertu céleste que de s'humilier. Qui veut s'humilier devant le Seigneur? Ce n'est pas une parole pour les autres. C'est d'abord une parole pour soi. On n'humilie personne. Ça, ce n'est pas biblique. On n'a pas humilié les autres. On s'humilie soi-même. Il est dit de Jésus qu'il s'est humilié lui-même. C'est comme M. Hébert disait, les textes sur les femmes, c'est pour les femmes. Les textes sur les hommes, c'est pour les hommes. Chacun doit prendre pour soi. On n'a pas à taper sur les autres avec ces textes. Et l'humilité, c'est pareil. On n'humilie pas les autres. On s'humilie soi-même. Et derrière, le Seigneur est dit que le Seigneur honore celui qui est humble. Il rabaisse celui qui est orgueilleux. Osons nous humilier devant le Seigneur. Il y a de grandes promesses, c'est vrai. Elles sont là, il ne faut pas les négliger. Et puis, il le mérite. Lui, il en est digne. Amen. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es tout et que nous sommes rien. Merci de nous rappeler que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toute action dans notre vie, Seigneur, n'est que parce que tu nous la permets. C'est toi qui nous as voulu sur la terre, tu as donné la vie. Tu as fait en sorte que le fœtus grandisse, qu'il soit tissé dans le ventre de la mère et qu'il puisse atteindre maturité, qu'on sorte, qu'on soit là aujourd'hui et encore là ce soir. Peut-être quelqu'un est là pour la première fois ce soir. Il a besoin d'entendre qu'il faut qu'il s'humilie devant toi pour te demander pardon pour ses péchés pour être sauvé. Peut-être quelqu'un d'autre n'avait pas réalisé que tu étais le Créateur et il se prenait pour Dieu. Il créait dans sa vie, croyait créer des choses. Tu nous rappelles que c'est toi le Créateur. Nous ne sommes que des créatures. Nous te devons l'adoration. Et quelqu'un d'autre peut-être avait besoin de se rappeler qu'il n'est pas saint et qu'il ne doit pas juger son prochain, mais se juger soi-même, qu'il ne doit pas détruire son prochain, mais qu'il doit l'encourager avec douceur et humilité. Ta parole est pleine de conseils, je n'ai pas pu tout lire, mais que cette introduction puisse nous encourager à continuer nos recherches. Tu es saint, tu nous appelles ton peuple, et nous sommes appelés à être saints. Aide-nous à parvenir à cette sainteté, par l'humilité. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.